9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, bonjour et bienvenue. Pour commencer la semaine, je reçois ce matin Michel Odoul. Tiens, j'ai dit semelle, c'est un acte manqué, Michel Odoul.
Oui, réussi quand même.
Ouais, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes fondateur de l'Institut français de Shiatsu, ça veut dire pression des doigts.
C'est ça, c'est une technique corporelle japonaise qui consiste en une sorte d'ostéopathie un peu à l'orientale, qui travaille à la fois sur le corps et les tensions physiologiques, tout en se servant des trajets, des méridiens d'acupuncture et des points d'acupuncture.
Voilà, que vous avez popularisé en France, vous êtes conférencier et formateur, et vous publiez une nouvelle version de votre best-seller, dont la première version apparue en 1994. Aujourd'hui, ce sont 700 000 lecteurs qui l'ont déjà acheté. Ça s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » chez Albin Michel. À noter que les deux premiers chapitres de votre livre sont là pour nous éviter de lire idiot. Pourquoi ?
Parce que je crois que nous sommes construits et éduqués dans des cultures qui morcellent et qui étudient les pièces d'un puzzle l'une après l'autre et en les séparant l'une de l'autre. Or, le principe même qui est le principe de la vie n'est pas un principe de morcellement, c'est un principe d'unité. Et pour comprendre comment celle-ci fonctionne de façon générique et globale, tout en se donnant la possibilité d'étudier la zone précise qui peut être en tension ou en souffrance, nous avons d'abord besoin d'intégrer une idée globale qui est celle de l'unité.
Oui, parce que beaucoup pourraient lire votre livre en disant, voilà, bon, j'ai mal là, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui.
Et c'est surtout ça que vous vous refusez de faire.
Oui, j'ai absolument toujours voulu et j'ai travaillé beaucoup. J'ai mis plus de 2 ans hein, sur la forme à réfléchir comment transmettre et écrire ces données-là, parce que tout en donnant des grilles qui permettent de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tel ou tel type de souffrance, j'ai fait le maximum pour éviter de tomber dans un dictionnaire de recettes type dans lesquels j'aurais dit, ben, si tu as ça, ça veut dire ça, si tu vis ça, ça veut dire ça, etc., etc. Mais plutôt de comprendre que tout vécu qui s'articule autour d'un sujet ou d'un domaine particulier de notre vie rentre sans doute en résonance avec une partie de notre organisme qui joue à peu près le même rôle dans notre corps, et qu'à partir de là, on va avoir des pistes de réflexion intéressantes, parce que ce qui est essentiel et fondamental dans ce que je veux transmettre, c'est que ça n'est pas le fait de donner une clé ou une recette magique, mais c'est le fait de dire qu'à partir du moment où je me réintéresse à la partie en moi qui est en souffrance, je vais y amener quelque chose qui s'appelle la conscience. Or, il y a 2 principes majeurs dans les fondamentaux de la médecine orientale. Un premier qui dit qu'effectivement la maladie naît du morcellement et que la santé naît de l'unité. Et un 2e principe fondamental qui est que la maladie commence à toucher un organe quand la conscience qui l'habite le quitte. Re-ramener de la conscience dans cette zone organique est donc quelque chose de central et de majeur.
Souvent en début de conférence ou peut-être même en début d'émission de radio, vous dites aux gens, je vous demande de ne pas me croire sur parole.
Oui, bien au contraire.
Pourquoi ?
À la fois parce que c'est un principe philosophique oriental qui dit que remet tout en question et surtout ton maître. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours aller s'abreuver à la connaissance, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Mais ça ne veut pas dire que cette connaissance, il faille en faire une vérité définitive et une certitude, mais il faille la mettre en perspective, parce que ce qui crée la valeur d'une connaissance, c'est sa cohérence. Et pour pouvoir obtenir la cohérence de quelque chose, il faut la remettre en question et essayer de l'étudier. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que, à travers le principe de dire « je ne vous demande pas de me croire, mais d'essayer ou de faire », je réinstaure de la vie et de la pratique chez la personne qui est concernée, et à partir de là, elle remet de l'énergie vers un sujet qui est un sujet majeur et central pour elle, puisque c'est sa propre vie.
Est-ce que ça veut dire que ce matin, on doit être sceptique quand on vous écoute ?
Oui, absolument.
C'est ça.
Voilà, c'est parce que je suis un très bon antiseptique. C'est facile, n'est-ce pas ?
Non, c'est bien. On sent que vous avez pratiqué des émissions avec punchline récemment.
Voilà. Ouais. À condition que le scepticisme ne soit pas de la critique. Le doute est un moteur, la critique et le dénigrement est un frein.
Je vais commencer par vous citer. Plus la médecine sait soigner des maladies, plus celles-ci deviennent profondes et difficilement maîtrisables et capables de muter. Vous pensiez à quelle maladie ?
Toutes. C'est quelque chose que nous constatons de plus en plus dans ce qui est la connaissance médicale, le monde tel qu'il est aujourd'hui. On se rend compte que les maladies vraiment organiques sont de plus en plus facilement traitables, car en réalité, ce sont des fonctionnels ou des choses qui touchent beaucoup plus à la structure même de ce qu'est le corps, qui apparaissent de plus en plus. Toutes les pathologies qui touchaient par exemple au système immunitaire, comme les allergies, les maladies auto-immunes, etc., étaient des pathologies qui étaient beaucoup moins développées il y a une 50aine d'années. alors qu'on était tout à fait capable de les objectiver. On savait pertinemment ce que c'était que une problématique d'Hashimoto au niveau thyroïdien, ce que c'était qu'une péricardite, ce que c'était qu'une une pancréatite, une entérite ou un mal de Crohn, ou etc., etc., ou une sclérose en plaques, sauf qu'aujourd'hui, ces maladies et ces pathologies explosent. Peut-être bah, parce
alors
que...
aujourd'hui, on convoque l'épigénétique pour les expliquer.
Quelles que soient les raisons, l'épigénétique, elle existait à l'époque.
C'est pas la bonne réponse quand on dit ces maladies explosent aujourd'hui à cause de l'épigénétique.
Mais l'épigénétique, c'est la reprise en compte de quelque chose d'un peu plus vaste et d'un peu plus large.
Donc notre mode de vie, l'environnement.
Voilà. Et donc, bien entendu, si dans l'épigénétique, on met nos modes de vie et notre environnement, dans nos modes de vie et notre environnement, il y a la manière dont on soigne les maladies.
Nous nous sommes vus pour la dernière fois au tout début de la première vague de ce qu'on appelait encore le Covid-19. Il n'était pas féminisé à l'époque. Hein. Et le premier, vous avez parlé de l'importance du terrain. Qu'est-ce que vous avez compris de nouveau au cours de ces deux dernières années? Moi, je me souviens de la conversation qu'on avait eue ce jour-là,
oui.
Très très précisément. On avait beaucoup d'interrogations. On était passé par l'étape de la grippette.
Oui.
Hein,
oui.
Et on se demandait ce qui allait se passer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez compris? Parce que vous avez été assez... On ne vous a pas entendu pendant deux ans, pendant toute la période de la pandémie.
Oui. Parce que je considère qu'à partir du moment où on a une parole qui porte un peu, on doit mesurer ce qu'on dit. Et que tant qu'on n'a pas les éléments de la connaissance qui permet de dire ou d'affirmer quelque chose dans une direction donnée, eh bien, on ne dit rien. On observe, on cherche, on essaye de comprendre. Il est fondamental d'intégrer... que cette crise, elle a agi à deux niveaux. Elle a agi d'abord à un niveau macrocosmique. Au niveau sociétal, il y a
Expliquez.
Macrocosme, ça veut dire au niveau global, au niveau général. Donc au niveau sociétal, il y aura eu un avant cette crise et il y aura un après. Rien ne sera plus jamais pareil à tout point de vue. Il y a eu une effraction dans tous les plans de notre société, de notre vie et de tous les individus. On a déchiré des familles. On a fait exploser des groupes d'amis, on a détruit des équipes de travail par des comportements et des flots informationnels, anxiogènes, accusateurs ostracisant certains types de populations, pas d'autres, etc., etc. On est quasiment rentré dans une véritable posture religieuse par rapport à ce qui était en train de se passer. Alors que manifestement...
Ça veut dire qu'il y a la bonne parole et on ne peut pas avoir d'autre parole que la bonne parole, c'est ça?
Vous avez pu entendre des gens qui avaient une autre parole que la parole officielle, qui ont pu parler longtemps? C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Pour moi qui suis un enfant de 68, il y a eu une gifle culturelle monumentale puisque j'ai vu disparaître quelque chose pour lequel je m'étais battu qui s'appelait la liberté. La liberté d'expression. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. On peut avoir des opinions divergentes, etc., etc. On peut le laisser argumenter. Et je ne suis pas en train de parler de là, du genre de la théorie du complot et de tous ces trucs-là. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler d'éléments, éventuellement, de réflexion à ce qui peut arriver. Ça, c'est sur le plan sociétal. Je crois qu'il faudra une à deux générations pour que les plaies soient pensées. Parce qu'il y a des familles qui, depuis ce moment-là, ne parlent plus d'un certain nombre de sujets quand elles se rencontrent. C'est assez troublant. Vous n'imaginez pas le nombre de patients qu'on reçoit qui sont en désespérance parce qu'il y a eu des ruptures familiales graves, même dans des couples. Il y a eu des conflits inimaginables, même autour des enfants. Et donc, ça a été vraiment un des premiers dégâts fondamentaux et qui a été lié, lui, non plus à la pandémie virale, mais à la pandémie d'opinion. Il y a eu une espèce de flambée et une espèce d'hystérie collective qui s'est mise en place. Ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, c'est par rapport au niveau individuel. Il y a manifestement eu quelque chose qui nous a tous défoncés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et là, effectivement, la notion du terrain est devenue quelque chose d'important. Parce qu'on s'est rendu compte...
Enfin, sauf qu'au départ, cette notion, elle n'avait pas été envisagée.
Oui, pourtant, souvenez-vous, nous en avions parlé.
Non, je me rappelle, vous avez été un des premiers à parler du terrain.
Pour quelle raison? Parce qu'en fonction des individus, eh bien, le virus n'attaquait pas la même zone corporelle. Ça, c'est la signature obligatoire que ça dépend du terrain dans lequel il se manifeste. Et pour ça, il y a une théorie assez intéressante en médecine traditionnelle chinoise qui est celle qu'on appelle la théorie de l'hôte et de l'invité. L'hôte, c'est le malade, l'invité, c'est le virus. Il faut savoir que l'invité, il s'installe dans les pièces où on le laisse aller. C'est-à-dire dans les pièces qui sont vacantes, dans les pièces où il y a de la place, dans les pièces qui sont disponibles. Et c'est là que la notion de terrain devient importante. Quel était l'état de mon corps, quelles que soient les raisons de cela? Il n'est pas question de dire ou d'accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. En tout cas, de comprendre que si j'ai un terrain, par exemple, organique qui est saturé, si je suis quelqu'un qui est en état d'obésité, quelqu'un qui a un diabète, quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire, quelqu'un qui a etc., etc., eh bien, le virus, comme l'eau dans un barrage qui va s'engouffrer dans l'endroit où il y a la brèche, il va aller s'engouffrer là où il y a la brèche. Après, au-delà de cela, qu'est-ce qu'on peut déduire ? Je ne parle même pas d'où peut venir ce virus. La vie a montré globalement...
Là, pour l'instant, on est toujours en train de se poser des questions.
Oui, mais ce que l'on constate, c'est que la grande épidémie, par exemple, de peste noire, elle a eu lieu pas n'importe quand au Moyen-Âge, que la grippe espagnole, elle ne s'est pas produite n'importe quand en Occident, et que peut-être bien cette crise, elle est arrivée dans les pays occidentaux, dans une période dans laquelle nos sociétés étaient profondément malades, et que les composantes, les habitants de ces sociétés étaient immunodéprimés, sous stress, sous état d'excitation, en limite de burn-out, en surconsommation, dans une espèce d'attitude hystérique globale. Et nous étions rentrés dans un rapport à la vie, qui était un rapport dans lequel la seule conscience que nous étions et que nous avions de la vie, bah, c'était de lui nuire et de lui faire du mal. Pollution, comportement alimentaire, attitude les uns vis-à-vis des autres, etc. Et là, il y a eu une espèce de gigantesque clash qui a tout mis un petit peu à plat, qui a tout fait voler en éclats. Nous sommes tous, pour l'instant, dans une phase où nous allons rentrer en convalescence. Il va falloir que nous tirions les leçons de ça, que nous fassions la paix à l'intérieur, que nous réacceptions les choses, que nous allions très sincèrement, avec la main sur le cœur, demander pardon à nos anciens que nous avons tellement maltraités pendant toute cette période. Maintenant, les informations commencent à sortir. Mais Dieu sait s'il y a eu tout un temps pendant lequel il fallait rien dire à ce sujet-là, alors que ça a été abominable ce qui s'est passé. Des personnes qui sont seules, qui sont en souffrance, qui ont mal dans leur corps, qui voient l'échéance de la mort qui arrive, qu'on isole, qu'on distancie et à qui on interdit de voir les seuls êtres qu'ils aiment et qui pourraient les toucher.
Et ça se passe encore aujourd'hui. Et on est à la cinquième vague.
Oui.
Hein, on continue à couper les personnes âgées de leur famille pour les protéger, soi-disant.
Oui. Comme ça, on va les laisser mourir seuls.
Oui. Bon, ces questions se posent aussi, mais vous pensez aujourd'hui qu'on ne peut pas les poser, ces questions ?
C'est très compliqué. C'est très compliqué. D'ailleurs, vous avez même réussi à me faire déborder de mon habitude.
Non.
Si.
Non. Bon. Bien.
Vous êtes très fort.
Tiens, votre habitude. Alors, on va reparler de maladies plus classiques, hein, puisque vous en avez abordé cette nouvelle, dans cette nouvelle version de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, Michel Odoul est notre invité à l'occasion de la publication de la nouvelle version. C'est la cuvée 2022 de son best-seller. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi chez Albin Michel. Et donc, vous avez dans cette nouvelle édition supprimé, m'avez-vous dit, le Minitel.
Oui.
Ce qui ne nous rajeunit pas. Le Bebop. Et vous avez ajouté sept nouvelles entrées. Donc, la thyroïde, le syndrome du cœur brisé, la fibromyalgie, la désespérance, on verra pourquoi tout à l'heure, les apnées du sommeil, l'hallux valgus et la capsulite rétractile, qu'on appelle aussi l'épaule gelée, qui est une maladie de l'épaule et qui est une maladie plutôt fréquente, en fait.
Maintenant.
Oui.
Elle est très fréquente, elle se développe de plus en plus. Il y a une trentaine d'années, dans le milieu, la capsulite rétractile était quelque chose qui était très peu connu. On connaissait l'arthrite ou la périarthrite de l'épaule, mais cette forme particulière de bursite, ça s'appelle une bursite, c'est une inflammation des bourses articulaires qui se situe au niveau de la tête de l'épaule, était très très peu connue, très très peu développée. Et un peu comme ce qu'on appelait les algodystrophies aussi, qui sont apparues vers les mêmes époques et tout, eh bien c'est une problématique mécanique qui se développe de plus en plus.
Alors, qui toucherait plutôt les femmes, plus les femmes que les hommes ?
Non. Qui touche autant les hommes que les femmes. Autant la fibromyalgie touche plus les femmes, autant le syndrome de désespérance touche autant les uns que les autres, autant, etc., etc. Autant la capsulite rétractile touche autant les hommes que les femmes, parce qu'elle est en fait la traduction d'une contrainte ou d'un empêchement à faire ou à agir qui vient du monde extérieur. Et pour l'individu, c'est quelque chose qui est difficile à intégrer, à accepter, et donc il y a une retenue sur soi.
Oui, et d'ailleurs c'est très handicapant et c'est souvent requalifié en maladie professionnelle.
Ça peut, oui. Ça peut, c'est-à-dire que si ça n'est pas pris en charge correctement, et etc., il y a une perte de l'amplitude même du mouvement de l'épaule. Alors que si c'est pris en charge, tout de suite, dès la phase chaude, ça peut très bien évoluer très favorablement.
Bon, d'accord. Alors pour vous, quelles sont les clés de la capsulite ?
Il faut que la personne identifie quel est le contexte de vie dans lequel elle se sent empêchée ou obligée de faire quelque chose. Quelles sont les situations ? C'est très fréquemment lié au professionnel, mais ça peut tout à fait aussi être lié à des vécus personnels. Mmh. En tout cas, ce sont des situations dans lesquelles la personne souhaitait faire quelque chose, n'arrive pas parce qu'elle pense qu'on l'en empêche ou qu'elle n'en a pas les moyens. Ou ça arrive aussi dans des situations dans lesquelles la personne, au contraire, est contrainte à faire ou à agir d'une certaine façon. Moi, je me souviens je me souviens d'un père de famille qui était venu me voir, qui avait une capsulite assez faramineuse à son épaule gauche. Il pouvait quasiment plus lever le bras. C'est extrêmement douloureux et sensible. Et donc, bien sûr, avant d'aller travailler physiquement sur la question, j'ai commencé à évoquer la situation. Qu'est-ce qui se passait dans la vie de ce monsieur ? Ben, c'est très simple. C'est un monsieur qui était un passionné de sport, qui faisait beaucoup de sport, de course à pied, de choses comme ça, qui faisait courir du demi-fond. Et qui avait un fils qui était une des futures étoiles du tennis français. Et donc, il mettait toute son attention de vie, toute son envie vers ce garçon qui marchait très bien, qui avait été sélectionné en équipe de France, qui suivait les entraînements à Roland-Garros. Et puis est arrivé le moment où, à l'âge de 12 ans, eh bien, il devait rentrer en lycée et s'est posé la question du sport-études. Sauf que sport-études, ça veut dire je quitte la maison, je m'en vais loin, je laisse les potes, j'abandonne tout. Et ce monsieur, qui était quand même un père qui était aussi à l'écoute de son fils, lui a laissé la possibilité de choisir. Et le fils a refusé les sports-études pour pouvoir rester au lycée avec les copains. Et donc le père a accepté la décision du fils. Et dans les semaines qui ont suivi, il a commencé à avoir mal à l'épaule, de plus en plus mal à l'épaule, au point de ne plus pouvoir la bouger.
Ça se prend en charge comment ? Donc une fois que ça s'est dit ?
Mécaniquement parlant. Il faut bien sûr aller... Alors souvent on dit, il faut faire attention, il ne faut plus mobiliser. Il faut mobiliser, mais il faut mobiliser avec douceur, avec précaution. Mais la vie doit continuer à circuler. Tous les spécialistes disent aujourd'hui que...
Ça veut dire quoi, la vie doit continuer à circuler ?
Les flux vitaux, la lymphe, ouais. Le sang, les influx nerveux, les mouvements osseux, etc. etc. Tous ces fluides vitaux, si nous bloquons l'articulation, se figent à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'une articulation s'atrophie. Donc, on va aller travailler sur le champ de la douleur. On va accompagner ça. Si il y a des techniques, on fait des techniques de massage avec des baumes du tigre. Si on n'a pas de baume du tigre sous la main, il y a une pommade qui est à peu près l'équivalent à 100% du baume du tigre qui s'appelle le Vicks Vaporub, même si on ne doit pas faire de publicité. C'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable au niveau ontalgique et au niveau refroidissement d'une zone. Des emplâtres d'argile. Et puis, bien entendu, faire appel à un ostéopathe ou faire appel à un praticien shiatsu. Parce qu'en plus, le praticien shiatsu va aller travailler les points d'acupuncture qui vont permettre de libérer ça. Mais surtout, la clé de tout ça, c'est bien entendu d'avoir permis à la personne de donner le sens. C'est-à-dire d'identifier le pourquoi ça se bloque à cet endroit-là.
La suite est dans votre livre. Alors, ce qui m'a passionné, c'est l'hallux valgus. Alors, c'est valgus, comment on dit ?
Valgus.
Hein ?
Valgus.
Valgus, donc c'est ça. Alors, ça veut dire gros orteil, hallux, et valgus, ça veut dire tourner en dehors. Donc, ce qui m'a passionné, alors déjà, c'est comme organe, l'orteil, le gros orteil. C'est le seul orteil du pied dans lequel débutent deux méridiens énergétiques.
Oui, le méridien de la rate pancréas et le méridien du foie, qui sont les deux méridiens fondamentaux qui gèrent les énergies en fait, de l'incarnation. Les énergies de ma structure charnelle et de ma structure physique, ça, c'est l'énergie de la rate pancréas. Et les énergies de la conscience que j'ai de moi, ça, c'est l'énergie du foie. L'hallux valgus apparaît la plupart du temps dans une phase précise de la vie, qui est pour les femmes, parce que c'est principalement féminin, la phase de la préménopause et de la ménopause. C'est à ce moment-là que cette zone de l'articulation du gros orteil peut commencer à devenir chaude, douloureuse, et petit à petit, au fur et à mesure, si ça continue à se dégrader, eh bien l'orteil va se décliner en direction des autres orteils, c'est-à-dire vers l'extérieur.
C'est ce qu'on appelait l'oignon autrefois.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ouais. Vous voulez un café ou pas, Michel ? Parce que je vois que vous grattez...
Avec grand plaisir, oui. Ouais,
je sens votre gorge qui gratte.
C'est ça.
Non, mais attends, on va aller vous chercher un café, on va continuer l'émission. Mais c'est juste pour que, comme ça, vous pourrez...
Hydrater mon fond de gorge.
Non, mais attendez, c'est important, ça. Oui. Il faut que l'invité soit...
En confort.
En confort intégral. Sinon, on ne peut pas développer les idées. Alors effectivement, donc c'est ce qu'on appelait l'oignon. Pourquoi ça apparaît à ces périodes de la vie, donc Michel Oudol?
Eh bien parce que, si vous voulez, c'est la période, la ménopause et l'après-ménopause, où il se passe quelque chose de particulier dans le corps de la femme, qui est un, pardon, un bouleversement hormonal, qui veut dire que je ne serai plus mère.
Donc il faut renoncer déjà à ça. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire être mère? Dans les archétypes, dans les grandes structures inconscientes profondes, c'est le rôle d'utilité principale de la femme. D'ailleurs, dans les anciennes cultures, même elles étaient répudiées quand elles étaient infertiles. Cet archétype continue à agir. Et s'il est important pour la femme, ça peut être une douleur de perdre cette utilité et cette raison d'être. Et donc ça va générer une tension. C'est pour ça que ça va toucher la structure de l'os, c'est-à-dire les grands points d'appui et les grandes structures solides. Il y a du feu, et il y a du feu de l'inflammation, qui se traduit dans cette zone du corps où passe justement le méridien de la rate pancréas, qui est celui qui gère le cycle hormonal. Et c'est ainsi que cela se traduit par le fait que je vais avoir un point d'équilibre qui va être difficile par rapport à ce qui est mon positionnement de femme mère potentielle.
Ça n'a rien à voir alors avec le port de mauvaises chaussures. On dit souvent finalement que ceux qui développent des oignons sont des gens qui ont des chaussures qui sont trop serrées, par exemple.
Pour l'oignon, c'est peut-être valable. Pour la déformation osseuse véritable, l'oignon, c'est d'abord une concrétion de peau. Là, pour une déformation osseuse, ça va être plus difficile d'utiliser ça comme, comme explication. Et puis, si c'était ça l'explication, pourquoi uniquement et toujours sur cet orteil-là?
Ouais. Est-ce que c'est réversible? Parce que c'est la question que ceux qui en souffrent...
Non. Réversible, à ma connaissance, non. En revanche... merci beaucoup. En revanche, on peut l'arrêter.
D'accord.
Plus l'ux valgus est pris tôt, plus ça s'arrête facilement.
Je crois que vous avoir votre café, ça va vous faire un bien fou, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un...
Il y a une clim qui marche ou pas, là, non?
Ben vous êtes comme moi, vous êtes sensible à la clim.
Oui.
Ben voilà, et voilà. C'est que moi, je supprime, j'arrive dans un studio... Je coupe la clim, chauffage.
Oui, mais c'est peut-être, je sais pas. Hein. Mais
non, si, si. Non, c'est ça. Mais il a raison. Et ouais, et vous avez raison, Michel. Il faut couper la clim. C'est un tu, hein. C'est un tu, tout ce que vous voulez. Allez, Michel Oudoul est avec nous jusqu'à 10h.
Ouais. AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, avec Michel Oudoul qui est avec nous, qui a pris son café et qui nous parle de la nouvelle version de 10 mois où tu as mal. Je te dirai pourquoi chez Albin Michel. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est quelle est la signification des mots du corps par rapport au bleu de l'âme.
Ah.
Intéressant, hein, puisque mais oui. notre corps a un langage.
Notre corps a un langage parce que il est en fait, on dit dans les philosophies orientales que c'est le véhicule de notre esprit. Et que donc il le porte, et en tant que tel, il est son outil de mise en prise avec le réel. Mais en même temps, il dépend profondément de ce que l'âme et l'esprit lui insufflent. Une âme qui est fripée, qui est en tension et en souffrance, va obligatoirement vouloir le traduire à un moment donné par le corps.
Bien, alors de nouvelles entrées hein, dans votre livre, la fibromyalgie qui est voilà, une des maladies elle, dont le diagnostic quand même est très difficile à poser.
Il a été posé maintenant, il y a là aussi quelques années. C'était considéré comme une maladie d'hystérie. C'est-à-dire, on considérait que c'était les femmes, parce que c'est 75% des cas, c'est des femmes, qui s'imaginaient ça dans leur tête, etc. Parce que sous les radios ou sous les scanners, on voyait rien. Donc, comment pouvait-elle dire qu'elle souffrait? Les analyses ne donnaient rien. Maintenant, on s'est rendu compte que c'est un syndrome douloureux diffus, qui est donc ambulatoire, qui a la possibilité de se déplacer dans des zones corporelles, mais qui correspond à des critères précis. On a défini 18 points fondamentaux, la médecine classique pure et dure. Et quand, lors de l'établissement du diagnostic, sur ces 18 points, il y en a au moins 11 qui sont sensibles au toucher, le diagnostic de fibromyalgie est posé.
De quoi la fibro nous parle-t-elle, finalement?
Si on voulait faire très court... chaque maladie, finalement, c'est une sorte de fanion et de devise qu'on porte. Et la fibromyalgie, sa devise, c'est « je suis roué de coups ». Le corps de quelqu'un qui est fibromyalgique est un corps couvert de bleu. C'est quelqu'un qui a été malmené. Je me souviens, un jour, on m'avait interrogé sur la fibromyalgie de Lady Gaga. Et j'avais dit « écoutez, A priori, je ne connais pas sa vie, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il y a eu quelque chose dans sa vie où elle a certainement été très malmenée. Mmh. Fibromyalgique s'était déclenché il y a quelques années, mmh. et c'est dans les semaines qui ont suivi où elle a avoué qu'elle avait effectivement subi un inceste et un viol. Mmh. Notre société, dans les modes de vécu d'aujourd'hui, malmène beaucoup. Nous avons tous plus ou moins d'ailleurs en ce moment la conscience ou l'impression de sortir d'un tambour de machine à laver, comme si on avait été secoué dans tous les sens. Mmh. Ça, ce sont les prémices, si vous voulez, pour que notre corps exprime part de la douleur. Et la fibromyalgie fait partie de ça.
Mmh. La thyroïde, aussi une nouvelle entrée de votre livre. Alors, la thyroïde, hein, c'est le chef d'orchestre. Où est-elle placée et de quoi est-elle le siège?
Alors, la thyroïde, c'est une glande endocrine qui se situe au niveau de la gorge. Elle est à la hauteur à peu près des cordes vocales. Mmh. Et elle est dans la zone corporelle qui est la représentation, qui est l'expression de notre capacité justement à nous exprimer dans le monde et dans la vie et dans le réel. La particularité de la thyroïde, c'est sa forme. Elle a la forme d'un papillon. Mmh. Et elle est la représentation même de ce qui en nous nous autorise l'envol. Mmh. L'expression de nous, la manière avec laquelle nous sommes en capacité de dire ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous faisons et qu'est-ce que nous souhaitons faire. À partir du moment où ça s'est brimé, castré, interdit ou empêché, il va y avoir une rétractation, il va y avoir un sous-fonctionnement, il va y avoir un déséquilibre, voire même pire que ça, il va y avoir un moment où le corps va lui-même générer ce qui convient pour détruire cette partie de nous-mêmes dont nous souffrons parce que nous sommes en incapacité de nous donner le droit d'exprimer qui nous sommes. Mmh. Et ça s'appelle les maladies auto-immunes, comme le Hashimoto, etc.
Voilà, il y en a beaucoup. Bon, je laisse découvrir dans votre livre, parce que ça fait partie des nouvelles entrées.
Ouais, ouais.
Alors, comment est-ce que vous établissez, Michel Odoul, le lien entre un symptôme et ce qui se passe en nous? Quelle est votre méthodologie?
Elle est autour de deux axes, la méthodologie. La première, elle est autour d'une idée qui est, un, je dois faire profondément confiance au processus de vie. Celui-ci, semble-t-il, est cohérent. S'il est cohérent, il n'y a aucune raison pour que mes fonctions psychiques ne rentrent pas en résonance avec mes fonctions physiques. Je vais donc me demander à quoi sert l'organe ou la partie du corps où j'ai mal. À partir de là, je vais pouvoir déduire qu'elle est en résonance avec le plan psychique qui me sert à faire la même chose sur le plan psycho-émotionnel. Prenons un exemple simple. Mon estomac, c'est ce qui me sert à digérer la matière. C'est-à-dire les nutriments, la nourriture, les choses denses et solides. Mmh. On va pouvoir supposer qu'il y a un pan de mon psychisme qui joue le même rôle sur le plan psychique, c'est-à-dire qui me sert à gérer la matière, c'est-à-dire résoudre, gérer tous les problèmes professionnels, financiers, etc. etc. C'est les mêmes énergies. Si je surcharge l'organe, il va aller chercher de l'énergie là où il y en a, c'est-à-dire dans le pan psychique qui lui correspond. Si je mange trois midi, je réfléchis mal l'après-midi. Mmh. Mais à l'inverse, si j'amène trop d'énergie dans le psychisme, vouloir trop gérer la matière, je fragilise l'organe. C'est la maladie de tous les hommes d'affaires qui passent leur temps à gérer la matière, qui se déclenche des ulcères à l'estomac. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de système de résonance et qui est extensible à l'intégralité du corps. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième des plans, c'est de prendre en compte l'idée que dans tout ça, il ne s'agit que d'information et de communication. Par conséquent, je vais me poser la question de qu'est-ce que le symptôme me dit. Donc, dans l'interrogation ou les questions que je pose aux patients, c'est qu'est-ce que le symptôme vous empêche ou vous oblige de faire? Et là, la réponse émerge. Je me fais une déchirure musculaire, il faut que j'arrête de courir. Mais dites-moi, est-ce que vous ne seriez pas un peu trop en train de courir dans votre vie? Est-ce que vous ne seriez pas un peu trop en train de tirer sur la corde? Est-ce que vous voyez la gymnastique? Nous sommes dans une espèce de maïotique, en fait, qui va essayer de trouver, à travers le sens de ce qui s'exprime dans la réalité physiologique, le message qui est derrière. Parce que j'ai une espèce de croyance, parce que j'en ai pas la preuve mécanique et matérielle, mais j'ai une croyance fondamentale, qui est que le but de la vie, ce n'est pas de nous faire mal. Donc quand ça fait mal, c'est que c'est une interpellation et qu'il y a quelque chose à saisir.
Alors, il y a plusieurs notions à bien comprendre. Alors la première, c'est la notion du ciel antérieur et du ciel postérieur. Mm-hmm. Donc ça, c'est important de comprendre. Et ensuite, il y a une deuxième notion, c'est celle de la latéralité.
Oui.
Hein, gauche et droite.
Et droite.
D'ailleurs, si on se rapporte à la médecine chinoise traditionnelle, quel rapport justement entre le yin et le yang et la latéralité?
Ah ben là, le rapport, il est simple. Alors, on peut faire dans l'ordre.
On y va.
Prenons la notion ciel antérieur, ciel postérieur. On est avec ciel antérieur dans ce que sont les champs subtils et avec ciel postérieur dans ce que sont les champs manifestés et denses.
Là, vous croyez que tout le monde a compris ?
J'y viens.
D'accord.
On dit en médecine traditionnelle chinoise que la vie, ça n'est pas que l'existence, c'est-à-dire ce qui se situe entre la naissance et la mort, qui sont faites de passage. Que la vie, c'est au-delà de ça. Il y a quelque chose qui est avant que l'on existe et avant la naissance, ça s'appelle l'antérieur, ils appellent ça un ciel. Et il y a ce qui se passe après la naissance, c'est le postérieur, qu'on appelle le ciel postérieur. Dans le ciel antérieur, c'est le préexistentiel. Dans le ciel antérieur, c'est l'existence. On dit que les âmes ou les esprits existent quelque part. Un jour, à un moment donné, pour des raisons données, ils s'incarnent. Mmh. Et ils réalisent quelque chose dans le temps de l'ici et maintenant. Ce sont ces notions-là. Mais cette médecine nous dit qu'il se passe la même chose dans l'ici et maintenant, avec deux plans qui résonnent et ressemblent à ça, qui s'appellent le non-conscient et le conscient. Et que le non-conscient, eh bien, c'est un peu comme le ciel antérieur, c'est une zone non perceptible, mais dans laquelle je prépare tout ce que je vais réaliser dans mon champ et dans mon état conscient. Par un phénomène de résonance et de miroir. Mmh. À partir du moment où ce que je réalise dans mon champ conscient est cohérent avec ce que j'ai préparé dans mon champ non conscient, tout va bien, c'est un état d'équilibre et d'harmonie. À partir du moment où ce que je réalise dans mon temps conscient n'est pas en harmonie avec ce que j'avais préparé avant et les moyens que je m'étais donné, il y a une distorsion, c'est ça qui génère l'inconfort. Si je décide d'aller faire un voyage dans les Alpes, monter une montagne, un trekking avec donc j'achète le matériel, je m'équipe pour ça, je fais la grosse doudoune, les grosses chaussures, les bonnets, les moufles, le sac à dos, tout ça. Je me prépare et après j'incarne et je réalise ça. Je pars dans les Alpes, je monte dans le train. Dans le train, je m'assois dans un compartiment où il y a une charmante jeune femme avec qui je lis conversation, avec qui les choses se passent tellement bien qu'à Lyon, au moment où je dois prendre la correspondance pour aller vers les Alpes, je décide finalement de laisser tomber et de la suivre vers sa destination à elle. Sauf qu'elle, elle va sur les plages de la Côte d'Azur. Regardez le confort qu'est le mien, en grosses chaussures, doudoune, le bonnet avec les moufles sur les plages de la Côte d'Azur. On voit bien que ce que je réalise n'est plus en phase avec ce avec quoi je m'étais préparé et que ça me génère un inconfort et une distorsion. Voilà cette idée, cette première idée-là. Et donc la maladie ou le traumatisme sur notre chemin de vie, la signature d'une distorsion sans doute qui se passe dans les choix de vie.
Chemin de vie ou légende personnelle pour les lecteurs de Paulo Coelho.
Absolument. Dans son fameux livre « L'alchimiste ». Ensuite, pour la question du yin et du yang et des latéralisations dans le corps, eh bien, les anciens Chinois, ils ont observé le monde et ils se sont rendus compte qu'il était organisable et compréhensible à travers deux pôles fondamentaux. L'être humain, il est entre le ciel et la terre. Au-dessus de sa tête, il a le ciel. Au-dessous de ses pieds, il a la terre. Au-dessus de sa tête, il a quelque chose qui est chaud, éclairé, lumineux, léger, subtil, insaisissable, mais qui existe. Au-dessous de ses pieds, il a la terre qui est fraîche, qui est lourde, qui est dense, qui est saisissable. Et ils se sont dit qu'il y avait sans doute une résonance de cohérence qui fait que c'était partout pareil. Dans tous les plans, il devait y avoir cette bipolarité. Quelque chose en relation avec le ciel, subtil, léger, etc. Par exemple, dans l'être humain, ça s'appelle l'esprit. Et quelque chose en lien avec la terre, dense, lourde, pondérale, ça s'appelle le corps. Ils ont décidé de nommer ça. Ce qui était en relation avec toutes les caractéristiques du ciel, ils appelaient ça le yang. Ce qui était en relation avec toutes les caractéristiques de la terre, ils ont appelé ça le yin. Ils ont observé, ils ont vu que quand le ciel et la terre étaient en harmonie, ça produisait le beau temps, ce qui chez un être humain s'appelle la santé. Que quand la terre et le ciel étaient en disharmonie, ben ça produisait le mauvais temps, ce qui, dans un organisme ou un corps humain, s'appelle la maladie.
Et quand on parle de latéralité, alors le yin c'est quel côté, le yang c'est quel côté ?
Alors là, le positionnement, il est extrêmement basique et simple. Le yin est à droite, le yang est à gauche. Il y a une argumentation très basique et très simple, qui est que quand j'observe le monde tourné vers le sud, parce que c'est la direction qui est la direction céleste dans ce qui est l'observation à la chinoise, le soleil se lève à gauche, à l'est, le soleil représentation du yang, et il se couche à droite, à l'ouest, représentation du yin. Lorsque j'observe comment est fait un corps humain, le ventricule gauche qui véhicule le sang chaud artériel est à gauche, et la grande artère qui véhicule le sang artériel chaud est à gauche, alors que celle qui véhicule, la veine qui véhicule le sang veineux est à droite, etc., etc. C'est-à-dire que cette latéralisation, elle a été, bien entendu, établie sur la base d'une observation fondamentale dans tous les plans, pour en arriver à la conclusion que lorsque je suis dans une observation d'un symptôme, et donc d'une réalité réellement dense manifestée dans le corps de la personne, le côté droit du corps parle de la symbolique yin, donc, par extension, maternelle, féminine, etc., etc. Et le côté gauche parle de la symbolique yang, et donc par extension est symbolique, paternelle, masculine, etc.
Ça veut dire quoi ça alors, pour ceux qui nous écoutent finalement, qu'il faut toujours s'intéresser au côté de l'organe qui nous fait souffrir?
Oui.
Et c'est à partir de là, peut-être qu'on peut commencer à avoir une réflexion?
C'est une piste directionnelle. Par exemple, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure pour la capsule rétractile, c'était son épaule gauche qui gênait ce père de famille. Et la problématique qu'il avait, c'était à la fois dans son positionnement de père et à la fois vis-à-vis de son fils. Et donc, le côté gauche du corps, parce qu'en fait, c'était un droitier. Comment se fait-il qu'un droitier qui travaille beaucoup plus avec le côté droit du corps avait déclenché la capsulite de l'autre côté? S'il l'avait déclenché du côté droit, on aurait dit « mais c'est normal, il est droitier, il travaille beaucoup plus, etc. etc. » Alors qu'en fait, c'est peut-être pas tout à fait de cette façon-là que ça se passe, mais que la zone corporelle, elle vient nous parler spécifiquement de quelque chose qui est en lien avec ces dimensions yin et yang et sans doute leur représentation symbolique.
Cette notion de latéralité, elle est fondamentale.
Oui. Elle est fondamentale parce qu'elle permet d'identifier la vraie piste et la vraie direction, et en comprenant bien que quand il y a symbolique masculin ou féminin, ça peut être aussi les symboliques internes. Ça peut être ce que Jung appelait l'anima et l'animus. Si moi je suis confronté à quelque chose dans lequel j'ai une décision extrêmement importante à prendre par rapport à moi et à ma vie, le positionnement que je dois prendre est un positionnement de type masculin, c'est-à-dire d'autorité. Je dois faire preuve d'autorité face à une situation de ma vie. Si en revanche je suis dans une phase de vie dans laquelle il faut que je me réveille un peu et que je comprenne qu'il faut que je réapprivoise ma dimension émotionnelle, ma dimension calme, tendre, accueillante, etc., c'est mon pan féminin que j'ai besoin de réapprivoiser, vers lequel j'ai besoin d'aller. On voit ça très fréquemment avec les problématiques, par exemple, comme les AVC. On est toujours troublé de dire, mais quand j'ai un AVC au cerveau gauche, c'est le côté droit du corps qui est paralysé. Mais ça n'est pas du tout étonnant, puisque il y a un vaisseau qui s'est bouché ou qui, au contraire, a eu une hémorragie du côté gauche du cerveau, c'est-à-dire de ma volonté de maîtrise rationnelle et masculine des choses. Et ça a inhibé mon côté droit. Mais justement, ma surmaîtrise masculine m'empêche de vivre mon côté féminin.
Bien. À creuser. Et la suite est dans votre livre best-seller. Dis-moi où tu as mal. Je te dirai pourquoi les cris du corps sont des messages de l'âme. Éléments de psycho-énergétique que vous avez développés en France. Merci d'avoir été avec nous, Michel Oudoul.
Merci, Philippe.
Il y a d'autres émissions avec vous que vous pouvez regarder si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus justement sur cette question des latéralités. Vous réécoutez l'émission en podcast et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.